Dieu nous a dit un certain nombre de choses ce matin. Je ne sais pas si nous les avons entendues, si nous avons été réceptifs à cela. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu enclenche les choses au fur et à mesure, et on voit même si le culte il est préparé d'avance, il y a toujours des choses qui interfèrent, et parce que c'est conduit par l'Esprit de Dieu. J'ai un retour là, c'est un redéfait.
Oui, mais il faut, on n'entend rien.
Donc ce matin, j'aimerais vous parler. Oui, je disais que ce matin, j'aimerais vous parler d'appel. Et nous verrons ce matin un appel qui a été adressé à un homme qui s'appelle Élisée. Mais avant, j'aimerais faire une introduction en lisant un passage dans Galates au chapitre 5 et au verset 13, qui nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Lorsqu'on parle d'appel, dans certains milieux évangéliques, de nombreuses personnes ont tendance à auréoler ce mot. Et si l'on dit à quelqu'un qu'il a reçu un appel, aussitôt dans l'esprit de ces personnes, celui qui a reçu un appel est considéré comme appartenant à une élite. Certes, il y a des appels particuliers tels que celui des 12 apôtres, mais même dans ces cas-là, la personne appelée n'a aucun mérite. L'appel ne repose que sur le choix de Dieu. Or, ce choix est totalement immérité. Dans le texte cité en référence, ce choix de Dieu concerne les croyants, ceux qui un jour ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur cœur. Pour les autres, Jésus leur adresse aussi un appel comme à Pierre, « Toi, suis-moi. » Et je veux dire, quel merveilleux appel, quand c'est Jésus en personne qui nous appelle. Et la question, ce matin, voulez-vous entrer dans cet appel? De même que les apôtres ont été appelés, ils ont choisi d'entrer dans leur appel apostolique. Et nous devons choisir d'entrer dans notre appel, mais aussi dans la liberté. Vous avez été appelés à la liberté. Tout n'est pas acquis instantanément. Vous et moi, nous avons besoin d'être accompagnés par le ministère du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 6-17, écrit « Nous sommes les serviteurs de l'Esprit. Si le service dans le cadre de la loi a été glorieux, le service sous le règne de l'Esprit est bien plus glorieux. À cause de cela même, nous jouissons d'une grande liberté. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et je rappelle, et je souligne fortement, que l'action du Saint-Esprit est donc nécessaire et indispensable à notre appel. Et nous allons aller ce matin dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et au verset 19. « Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et viens et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. En lisant ce texte, il serait difficile de trouver une meilleure préparation au service que celle d'Élisée et un ouvrier plus apte que lui au travail qui lui a été confié. Shaphat, le père d'Élisée et lui-même, faisait partie, semble-t-il, des 7000 témoins restés en Israël. Tout ça au verset 18. Et nous pouvons bien penser qu'Élisée avait grandi dans une de ses familles, car Shaphat n'est pas opposé à ce que son fils serve Élie dans des conditions dangereuses de cette époque. Il nous est précisé dans le texte que nous avons lu qu'Élisée labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Alors, on pourrait presque faire une prédication rien qu'avec ce texte, mais simplement pour dire, Élisée apparaît comme un homme ayant des dons, j'allais dire, naturels, et qui a de la force physique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le tracteur pour aller labourer les champs, et donc il fallait, avec des moyens rudimentaires, casser la terre, briser le sol pour labourer. Et puis en même temps, non seulement il avait des dons naturels, des dons physiques, parce qu'il fallait être aussi fort, et puis un homme qui avait aussi du caractère. Les conditions de vie témoignaient de sa richesse et de son influence, et il semble, dans un sens, qu'il était né pour commander. Puisque celui qui conduit la charrue et avec les bœufs, il y en avait 11 devant lui. Et celui qui était à l'arrière, c'est celui qui guidait ceux qui étaient à la tête. Et s'il y avait, par exemple, dans le sillon, j'allais dire un sillon qui n'était pas très droit, c'est celui qui était à la fin qui rectifiait tout cela. Donc il avait un poste important dans son travail. Et donc, non seulement il avait des dispositions pour commander, mais il avait des dispositions aussi pour servir, et aussi en même temps, par extrapolation, et bien aussi de pouvoir servir Dieu. Chacun de nous, nous faisons une estimation de nous-mêmes. Par rapport à nos qualifications, par rapport à notre expérience, par rapport à notre savoir-faire. Et souvent, on y met une note, même si ce n'est pas officiel. On se dit, tiens, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Mais, on s'aperçoit. Et moi, je m'en suis aperçu à travers ces longues années dans le ministère que ceux qui prétendent avoir des qualifications, eh bien, ne sont pas toujours à la hauteur de ces qualifications. Et que bien peu sont disposés, j'allais dire, à attendre, même s'ils ont reçu des dons, attendre que ces dons soient reconnus. On oublie souvent que l'incapacité à servir Dieu dans les petites choses trouve et éprouve aussi en même temps que l'on n'est pas capable de le servir dans ce qui est plus grand. Il n'est pas non plus nécessaire et indispensable d'avoir une certaine position sociale pour être à même de servir Dieu. Il serait tout à fait fou de penser qu'un service actif pour Dieu ne peut pas s'accorder avec des devoirs ordinaires de la vie et de la vie courante, ou avec des métiers humbles comme celui d'Élisée, suivre derrière la charrue. C'est pas, j'allais dire, une position, j'allais dire, très honorable aujourd'hui. Oui. Et on s'aperçoit là, en réalité, que c'est souvent l'inverse qui est vrai. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, verset 10 à 11, il est dit: celui qui est fidèle dans les petites choses, très petites choses, est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est petit, très petit, est injuste aussi dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? L'appel d'Élisée. Dans mon lu, ce texte, je dirais, merveilleux, et je vais le scinder un petit peu, où il nous est dit que Dieu, l'Éternel, dit à Élie, un autre personnage, un prophète, il dit: va, tu oindras Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. Élie s'en alla, il trouva Élisée, celui-ci était en train de labourer, et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Quelle scène, vous ne trouvez pas? Nous avons là un gars qui est en train de labourer, qui peine, sans doute, la sueur perle sur son front, et voilà qu'un personnage qu'il ne connaît sans doute pas arrive et lui jette son manteau sur le dos. Si ça vous arrivait à vous, soyez dans votre jardin en train de cultiver vos salades, pour ceux qui ont un jardin. Qu'est-ce que vous diriez? Et pourtant, personne n'était mieux préparé qu'Élisée et ne convenait mieux au service auquel il était appelé. Toute son histoire démontre ses qualités naturelles, nous l'avons souligné, sa force de caractère et la grâce divine qui était en lui. Cependant, pour beaucoup, l'humble laboureur aurait pu paraître un bien pauvre candidat à la fonction de prophète, et sa préparation bien différente de nos idées conventionnelles aujourd'hui à ce sujet. Que Dieu nous garde de considérer l'intelligence, la culture et l'éducation comme quelque chose de négligeable, bien entendu. Ces dons de Dieu ont une grande valeur et doivent être consacrés à son service et pour sa gloire. Mais ce n'est pas sur eux que se fonde la peine de Dieu. Et nous voyons bien que l'acte d'Élie de jeter en passant son manteau sur Élisée a une signification profonde. Cela montrait qu'Élisée devait remplir les mêmes fonctions d'Élie. Il n'était donc pas appelé à occuper une place de richesse. Il n'était pas appelé à venir Premier ministre ou Président de la République. D'être quelqu'un avec une grande influence. Bien au contraire. Il nous est dit qu'il a dû quitter le foyer, il a dû quitter les amis, Il a dû quitter le confort pour endurer des privations, souffrir la persécution et supporter la moquerie. Qui pouvait accepter cela? Si on avait dit, eh bien, tu vas souffrir, ça va être difficile, tu vas être obligé de te nourrir dans les chambres, et ça, il avait peut-être l'habitude déjà. Oui, Élisée accepte cela, mais Élie le met encore davantage à l'épreuve en lui disant, c'est moi qui le dis, si ton cœur n'est pas complètement engagé, si tu regardes vers le passé, alors retourne chez toi. Dieu est clair. Si tu n'es pas prêt à suivre Jésus, si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il te demande, alors non. Mais c'est pourquoi la question se pose à nous, et elle se pose toujours à nous. Sommes-nous vraiment prêts à suivre Jésus? Cet appel, il nous est adressé, nous, qui sommes chrétiens ici, et nous sommes tous chrétiens ici ce matin. Parce que l'appel de Dieu s'accompagne toujours d'une question décisive. Sommes-nous vraiment prêts à le servir? Ou simplement lorsque nous en avons envie. Peut-être que ce matin, nous avions envie d'être ailleurs. Mais Dieu a voulu que nous soyons ici. Et souvent, nous disons, oh, mais c'est pas très bien, c'est pas grave. Si je suis ailleurs, mais je n'ai pas abandonné le Seigneur est toujours avec moi. Oui, sans doute. Mais est-ce que nous répondons à notre appel? Si nous avons choisi Christ pour notre part, estimant son nom propre comme une des plus grandes richesses que nous puissions posséder, voilà ce que dit l'auteur d'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Voilà, Moïse, Élisée et bien d'autres encore ont considéré que l'opprobre de Christ était plus grande que toutes les richesses de ce monde. Non. Alors qu'aujourd'hui, nous soignons notre petite vie, nous sommes dans le bien-être, dans le plaisir, nous acquérons des biens, nous avons des privilèges dans ce monde. Mais imaginez un instant que nous soyons comme ces hommes et ces femmes, ces chrétiens d'Alep, sous les bombes, chassés, où là-bas ils avaient leur villa, ils avaient leurs biens, ils avaient leurs enfants, il y avait toute la famille. Et depuis des années, ils sont bombardés, massacrés. Et ces hommes et ces femmes donnent encore aujourd'hui une leçon d'appel à servir Dieu. Ils restent chrétiens. Oui, mes frères et sœurs, notre réponse doit être l'acceptation joyeuse de l'appel que dans sa grâce le Seigneur nous adresse à chacun. Et je dis bien à chacun de nous. Nous n'aurons pas forcément le même appel les uns et les autres, peut-être sûrement. Et certainement pour le salut, oui, nous aurons le même appel, mais pour le service, nous aurons un appel différent. Jésus a dit, Et il répondit à quelques-uns, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et depuis quelques semaines, quelques mois, nous suivons Jésus dans l'évangile de Jean, et nous sommes arrivés à la crucifixion, et même, j'allais dire après, à la résurrection. Alléluia. C'est cela, la finalité. Oui. Et quand Pierre pose un certain nombre de questions, Jésus va lui dire simplement, toi, suis-moi. Jean chapitre 21. Oui. On va un petit peu plus loin avec Élisée. Il nous est dit, il, en parlant d'Élie, trouva Élisée et jeta son manteau sur lui. Et il courut après Élie et dit, que j'embrasse, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. Élisée avait bien envie de servir le Seigneur. Et Élie lui a dit, eh bien, puisque tu as envie de me suivre, eh bien, il va falloir que tu abandonnes tes frères, tes sœurs, que va falloir que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Est-ce qu'Élie a dit cela à Élisée? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'est pas donné d'ordre. Non. Élisée, jusqu'à ce jour d'appel, se contentait de sa place. Il se contentait et était disposé à accomplir ses devoirs, même s'ils étaient tout simples, humbles. Oui, servir le Seigneur, c'est travailler où il nous place, et non pas où nous avons envie de nous placer nous-mêmes. Si nous ne voulons pas, nous ne sommes pas capables de servir Dieu à la place d'humilité et dans les devoirs de notre vie quotidienne, il est certain que nous ne pourrons jamais le servir vraiment à une autre place et dans d'autres circonstances. Nous nous trompons si nous négligeons, sous-estimons nos devoirs et que nous donnons une place excessive à tout ce qui peut être religieux. Oui, les choses de Dieu, ce sont des moyens de rafraîchissement, des grâces de communion, d'édification, pour nous rendre capables de servir le Seigneur, mais de servir le Seigneur dans notre quotidien, dans la vie de chaque jour. C'est cela notre appel. Si un frère ou une sœur montre beaucoup de zèle dans la vie de l'Église, et ça arrive cela, mais qui rend un piètre témoignage dans sa famille, dans sa vie privée, dans son travail, montre qu'il y a un déséquilibre qui le discrédite et qui discrédite aussi le Seigneur. La vraie religion, elle doit être source de croissance dans notre vie et dans toutes les relations que nous avons dans cette vie. C'est important. C'est seulement dans la mesure où nous sommes fidèles et zélés dans tout ce que notre main trouve à faire, que nous pourrons espérer être employés à un plus grand service. Et quand on lit le texte, très court d'ailleurs, ce passage que nous avons lu de quelques versets, nous ferons remarquer combien Élisée était prompt à écouter, prêt à obéir à l'appel de Dieu, car il a reconnu en Élie le prophète, mais aussi Dieu qui vient là pour l'appeler. Et il serait dangereux de devancer, j'allais dire, cet appel, comme il est aussi dangereux de rester en arrière. Si le Seigneur a un travail pour nous, il nous y appellera certainement pour le faire. Vous savez, il y a des choses, vous voyez, ce matin, hein, j'ai lu un texte qui m'a été donné dans mes lectures de la semaine, et je me suis fait du bien avec ce texte, et Dieu dit, il faut que tu l'apportes à l'Assemblée. Et donc j'ai fait ce que Dieu me demande, tout simplement. Il est certainement pour quelqu'un ou plusieurs. Hein. Moi je le sais. Je ne suis que, j'allais dire, le poteau indicateur, je ne suis que le messager qui délivre, comme Élie, est passé voir Élisée et lui a jeté son manteau, tout simplement. Oui. Oui, je le dis, si le Seigneur a un travail pour nous, il nous y appellera. Aussi devons-nous nous préparer dans l'attente et la prière est disponible. Je me souviens, en ce qui me concerne, avoir été appelé à servir Dieu très rapidement au moment de ma conversion. Et très vite, j'ai commencé à faire chanter et à commencer à préparer une petite méditation. Mais ce n'est pas pour autant que j'étais devenu un serviteur de Dieu. Il a fallu attendre presque 40 ans, comme Moïse, pour servir Dieu. Oui, et pourtant l'appel était là. On m'a dit, et un serviteur de Dieu m'avait dit, tu sais, quand on a l'appel de Dieu, il faut savoir prendre la pioche. Et j'ai pris la pioche pendant beaucoup d'années, quoi. Mais béni soit le Seigneur. Parce que ça a été instructif. Même si on a servi Dieu à la manière dont Dieu voulait, c'était important. Oui, Dieu disposera toujours quelque chose pour nous montrer clairement ce qu'est notre devoir, ce qu'est notre appel. Nous n'entendrons peut-être pas forcément une voix audible, mais sans doute une voix intérieure, très significative, qui nous fait comprendre que Dieu attend quelque chose de nous. Oui. Oui, pour nous aussi, il peut se passer des années et peut-être de travail pénible et d'épreuves avant que l'appel de Dieu ne résonne clairement dans notre cœur. Mais quand il vient, soyons prêts à aller où que ce soit, là où Dieu nous appelle. Nous allons aller un peu plus loin avec Élisée, pardon. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1, on lit ce texte. « Et il arriva que lorsque l'Éternel fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, Élie et Élisée partirent de Gilgal, et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Et Élisée dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. » Et ils descendirent à Bethel. Élisée et Élie ont déjà fait un bout de chemin ensemble. Dieu fait monter Élie au ciel dans un tourbillon. Et c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais lorsque Dieu choisit les moyens, ce sont ses moyens à lui, et il fait monter les siens. Et c'est ainsi que non seulement Élie est monté au ciel dans un tourbillon, mais en même temps, Élisée, et dire, est monté dans le service. Oui, c'est parfois, ainsi dire, comme dans un tourbillon, mais d'autres fois, ça peut être simplement lorsque Dieu nous réveille la nuit pour nous dire « c'est maintenant mon service ». Parfois, il est permis de percevoir quelques rayons de la gloire qui entoure, de façon presque visible. Et nous pouvons connaître, même dans l'assemblée, j'allais dire quelqu'un qui a vraiment reçu un appel de Dieu et que ça va être ce moment-là. Alors que pour d'autres, le passage peut être graduel et imperceptible. Mais qu'importe, puisque nous répondons à l'appel de Dieu. Assurément, de la même manière que Dieu a appelé de façon différente chacun des siens pour être sauvé. Et si j'entendais ce matin le témoignage de chacun de vous, et je verrais les manières différentes dont vous êtes venus à Dieu. Et nous avons tous convergé vers le même appel, vers le même Seigneur. Témoignage merveilleux certainement, qui glorifie le Seigneur. Mais nous voyons que Dieu a des moyens extraordinaires pour nous appeler à le servir. Mais rappelons-nous qu'Élie est venu vers Élisée. Et Élisée a suivi Élie. Alors, on voit dans nos textes que Élie, lui, s'apprête à partir. Et il dit à Élisée, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Et puis, il y a à d'autres reprises, trois fois, Élie dit à Élisée, reste ici, pour que j'aille à Jéricho, puis plus loin. Élie dit à Élisée, reste ici, je dois aller au Jourdain. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est toujours une mise à l'épreuve. Vous savez, quand on sert Dieu, Dieu nous met à l'épreuve. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire d'Élisée, on s'aperçoit que Élisée a fait le double de miracles qu'Élie. Vous savez, Dieu ne fait pas avec l'un ou avec l'autre un copier-coller. Nous avons chacun notre appel, chacun notre service pour Dieu. Et nous voyons bien que dans ce passage, eh bien, Dieu appelle Élisée à quelque chose de plus grand encore qu'Élie. Pourtant, Élie, c'était pas rien comme ministère à l'époque. C'était pas rien. Et Dieu l'appelle à un plus grand ministère. Wow! À un plus grand honneur, mais aussi à de plus grandes responsabilités. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que Élisée était qualifié? Il n'était qu'un simple laboureur. Il n'avait pas fait des hautes études. Il n'avait pas été à l'université. Il n'avait pas fait d'études théologiques. Or, croyez-moi, je ne suis pas contre les études, hein. Bien au contraire. Et ni les études théologiques, hein. Je pas du tout contre cela, bien entendu. Mais c'est pour dire que c'est Dieu aussi qui qualifie. Et bien entendu, les études, ça aide beaucoup pour servir Dieu comme l'a servi Élisée. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fort. Et même si on n'est pas qualifié, mais qu'on a reçu l'appel de Dieu, alors lui, Dieu, va nous qualifier pour le servir, hein, pour que véritablement nous soyons à l'écoute de Dieu. Et quel meilleur enseignement pouvons-nous recevoir sinon celui du Seigneur? C'est important. Obéirait-il à l'Éternel et ferait-il exactement ce que l'Éternel lui commanderait? Ou bien peut-être obéirait-il au prophète pour sa propre destruction, comme un autre l'avait fait, homme de Dieu, avec le vieux prophète qui mentait? Et on trouve ça dans 1 Roi au chapitre 13. Dans de telles circonstances, nous devons veiller au Seigneur. Il est plus dangereux pour nous de raisonner. Satan, vous savez, est beaucoup plus intelligent que nous. Nous trouvons vite de bonnes raisons, même des ordres d'un prophète, si nous désirons agir à notre guise et suivre notre propre penchant. On trouve toujours de bonnes raisons pour ne pas faire la volonté du Seigneur et dévoyer ses voies. Et je terminerai par la cinquième section, où nous trouvons dans 2 Rois, chapitre 2, versets 2, 4, 6. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et Élisée dit, je ne te laisserai point, et il descendit à Bethel. Et Élie dit, Élisée, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il dit, je ne te laisserai point. Et Élie dit, reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il dit, je ne te laisserai point. Oui, Dieu nous met à l'épreuve comme il a mis Élisée à l'épreuve. Oui, suivre quelqu'un, parfois c'est bien, mais parfois c'est aussi dangereux. Et certainement que le ministère d'Élie se terminait. Et Dieu appelle un autre serviteur à un ministère beaucoup plus grand, plus conséquent. Oui, Élisée toujours mis à l'épreuve. Les paroles d'Élie n'impliquent pas réellement qu'Élisée doit forcément le quitter, mais elle l'invite à le faire. Chaque fois qu'Élie prie, Élisée le restait en ajoutant, car l'Éternel m'envoie. Il a pu penser qu'il avait devant lui une épreuve qu'il devait affronter seul. Il valait donc mieux qu'Élisée reste en arrière. Au cours de notre vie, il y a parfois des moments où notre foi, notre patience sont sévèrement mises à l'épreuve. Alors, comme pour Élisée, la question se pose, quelles que soient les difficultés ou les épreuves qui se présentent, sommes-nous pratiquement prêts à poursuivre simplement le chemin, sans remettre en question sa longueur et les incidents rencontrés. À trois reprises, Élie a proposé à Élisée de rester, de la même manière que le Seigneur a demandé trois fois à Pierre. Qu'est-ce qu'il lui a dit au fait? M'aimes-tu? C'est cela l'important. Voilà ce qui paraissait important. Trois fois, Élisée a répondu avec force à Élie qu'il ne le quitterait pas, quoi qu'il puisse arriver. Il avait mis la main à la charrue et ne reviendrait pas en arrière. Voir Luc, chapitre 9, verset 62. Chacun d'entre nous, chrétien ou non, ne doit-il pas faire ce type ou ce genre d'expérience? N'y a-t-il pas beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous détourner du chemin, où le Seigneur nous a placés. Ce n'est finalement qu'une mise à l'épreuve de notre foi. De tels exercices, sous une forme ou sous une autre, seront certainement envoyés pour manifester, même si c'est à travers le feu, la réalité de notre foi. Le moyen de surmonter l'épreuve, c'est la foi. Notre seule ressource est d'apporter chaque tentation au Seigneur et de nous confier en lui pour qu'il en triomphe à notre place. On ne se débarrasse pas des difficultés liées au chemin de la foi en cherchant à les éviter. Il faut surmonter par la puissance. Car il dit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors la question se pose ce matin, et je terminerai par ça. Voulez-vous grandir dans cet appel de Dieu? Voulez-vous grandir dans cet appel à la liberté, à le servir? Alors, oui, vraiment, demandez-lui. Demandez au Seigneur de vous remplir vraiment de son Esprit. Et ma prière pour ce jour, eh bien, Seigneur, que ton Esprit vienne remplir ma vie.
Amen.
Qu'il me libère de ma timidité, de mes préjugés, de mes pratiques religieuses, rituelles, formalistes, et de tout ce qui pourrait entraver ma marche avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous appelles, tu nous as appelés. Et tu nous appelles encore ce matin à marcher avec toi, à te servir, à répondre à ton appel dans le service que nous avons à faire pour toi, mais aussi dans notre réponse, dans notre cheminement avec toi, chaque jour, chaque instant. Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, d'être devenus des chrétiens à part entière qui aiment leur Seigneur, qui aiment à le suivre chaque jour, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré que ce n'est pas facile tous les jours, oui, mais avec toi, nous avons une marche assurée, parce que c'est un chemin de foi, mais c'est aussi un chemin de grâce pour chacun de nous, pour tous ceux qui veulent le suivre fidèlement jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Amen.